Bonjour, c'est Jeanne Adède, vous écoutez Pop Pop Pop. Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Puisque nous n'allons pas à Cannes, c'est Cannes qui vient à nous aujourd'hui en la présence d'une jeune actrice flamboyante, Adèle Exarchopoulos, et par flamboyante, j'entends par là qu'il lui est strictement interdit de se promener dans les massifs forestiers de la Côte d'Azur, comme dans le maquis corse dès qu'approche la période de sécheresse. Ou plutôt, comme disent les charpentiers, voilà une jeune femme qui met le feu aux poutres, et il est rassurant de savoir que nos studios sont ignifugés. En revanche, elle est venue à nous aujourd'hui, mais elle sera très bientôt à Cannes pour y présenter Sibyl, qui n'est pas son pitbull, mais le titre du film de Justine Triet dont elle partage l'affiche avec Virginie Efira, entre autres. Et donc, comme Adèle s'apprête une nouvelle fois à fouler le tapis rouge le plus convoité du monde et à y mettre le feu, ce qui est moins grave puisqu'il est déjà rouge, j'en profite pour prévenir tout le monde, festivaliers, badauds, organisateurs, spectateurs, sans compter le mur de photographes, prenez vos précautions, un accident est si vite arrivé. En attendant, c'est le studio de Pop 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 qu'Adèle est aujourd'hui venue réchauffer.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Adèle Exarchopoulos.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue sur la moquette noire 100% matelou du studio 611 de France Inter. Elle a rien à craindre celle-là. Elle en a vu d'autres. À mes côtés, celle qui est toujours vigilante à un petit quai hein, quand j'ai parlé de mettre le feu aux poutres.
Il y a de quoi quand même, non ?
Charline Roux, bonjour,
bonjour
Charline.
Bonjour Adèle, bonjour, bonjour.
Et au menu également de Pop Pop Pop, J.E. Sunday.
All our chickens piled upon the bed and I'd sleep all the way.
Talentueux jeune chanteur américain qui sera tout à l'heure en live sur la scène mythique de Pop Pop Pop. Mais avant ça, Adèle Exarchopoulos, c'est comme cette musique a été brutalement coupée par Ghislain Fontanus, notre réalisateur. Ici, il existe une question encore plus trash que de vous entendre imiter Abdel Latif Kechiche qui vous dirige pendant une scène de sexe.
Oh non.
Savez-vous imiter Abdel Latif Kechiche quand il est derrière la caméra ?
Mange Adèle, mange ! Léa, tu jouis !
C'était dans la boîte à questions de Canal+. Et donc, cette question trash, ici, c'est... Adèle, c'est quoi pour vous la pop culture ? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses adélisantes, exarchopoulesques, canoisantes ou même palmedoreuses. Et parmi mes préférées, il y a celle de Karim Leclou avec qui vous avez tourné. Écoutez.
Je dirais que c'est la culture qu'on n'impose pas, mais qui s'impose.
Voilà, pas besoin d'enfoncer le clou, hein. Mais pour vous, Adèle, c'est quoi ?
Il est imbattable. C'est quoi la pop culture ? Enfin, c'est subjectif, mais j'espère que c'est le respect des anciens qui forcément est commercialisé un peu. Mais ça m'évoquerait le talent, par exemple, des nouveaux comme The Blaze, le clip Queens, des choses comme ça.
Mm-hmm. Donc c'est très lié à la musique ?
Non, pas forcément.
Non ?
Il n'y a aucune chute, mais aucune. Non, pas forcément. Non, dans tout.
Un petit peu quand même.
Dans chaque art.
Un peu partout. Ouais. Ok, d'accord. Alors, la pop, la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop. Juste après, Malade, c'est un morceau de Roméo Elvis.
Une de perdue. Retenir les choses comme elles sont. Il y aura quand même de la peine. Tant qu'on se rappelle de la veille. Et j'étais pas dégoûté. Mais tu m'auras donné raison. À vouloir faire de la merde. T'avais le pouvoir de l'admettre.
Et toujours paré pour les excuses. Désolé mais toutes mes ex s'usent. C'est mieux que toi, la tête pourtant posée sur son plexus. Y'a des fuites comme dans une écluse.
Tu sais très bien.
Et y'a des buffes même dans les églises. J'étais pas vraiment un mec lisse. Plusieurs fois j'ai considéré ça comme un versus. Alors qu'il fallait un mec pisse. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne. Un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne. Pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille.
Thank you.
Et là, t'es où? Tu fais quoi? T'écoutes mes textes? J'en suis certain car les jalouses sont toutes les mêmes. Sous mes airs, j'en souffre encore. Courant d'air dans parcours en or. Avec qui tu sors, avec qui tu me sais, pourquoi ça m'intéresse? Mon talent m'a rendu célèbre, le pouvoir ça rend fêlé. L'amour ça rend bête, ça prendra toute l'énergie sans même faire de parenthèse. Pourquoi tu réponds pas? Je sais que t'entends les appels. J'arrive pas à croire que t'es réussi à tout zapper, hein? Tu fuis de façon minable, on dirait les personnages qui font de la course à pied. Ou peut-être que c'est moi qui suis parano. J'ai trop fumé de pétard et je veux finir à la gueule. Commencer la soirée comme faisaient les Ramones. Et la finir éclater par terre comme un petit rameau. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Se laisser tranquille, on doit se laisser tranquille.
Malade, le flow belge de Roméo Elvis, cet extrait de l'album Chocolat belge, évidemment lui aussi est malade, ben, c'est ce qui arrive quand on mange trop de chocolat belge, oui,
tout,
oui,
tout ça,
et tout est lié bien sûr. Vous écoutez Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Adèle, qui doit son prénom à la bière Adèle Scott, parce que son papa en a bu une le soir de sa naissance, et s'est dit que c'était un signe, et on se réjouit qu'il n'ait pas sifflé une croc. Mais qui est donc cette Adèle? Père réponse avec son pop portrait. Alors votre pop portrait, Adèle, c'est votre portrait, mais...
À base de pop.
Et c'est signé Charline.
Alors oui, mais je me dois d'être honnête, pas complètement aujourd'hui. Pour en savoir plus sur vous, Adèle, j'ai demandé du renfort.
Hey, salut à tous, salut à toi Adèle, c'est Chimène Badi sur France Inter.
Alors oui, mais non, c'est pas exactement Chimène Badi, c'est plutôt Lila Rantmel Habedia, déjà passée par ce studio et qui semble connaît bien la vie d'Adèle. Donc plutôt qu'un portrait chinois, voici un portrait Melha. Alors si Adèle était un super pouvoir...
C'est un pouvoir super pourri, mais en vrai, c'est être de bonne humeur le matin. C'est la meuf la plus de bonne humeur au monde, de toute l'île de France. C'est la meuf qui fait le plus la gueule le matin.
Alors si Adèle était un moment de la journée...
La sieste de 16h avec le petit téléfilm d'M6, là, un jour une histoire.
Si Adèle était une boisson...
Le café frappé, la glacée. Genre elle adore ça. Et je crois qu'elle adore ça que pour le style, parce qu'elle l'aime pas en fait. C'est juste pour dire, je crois, vous avez le café frappé? Ouais, j'en veux bien. Et elle le finit jamais.
Si Adèle était un plat?
Cordon bleu coquillette.
Alors si Adèle était une insulte?
Sale gueuse. Elle aime bien les insultes médiévales.
Si Adèle était un dessin animé?
Elle est très fan de dessins animés. Et je crois que son préféré c'est Tarzan. Tarzan de Disney ou le bossu Notre-Dame? C'est les deux, entre les deux, je dirais.
Si Adèle était une autre célébrité?
Jim Carrey. Elle est bombesque dans les séances photos qu'on voit et elle adore les red carpets et elle fait ça très bien. Mais moi, je sais que Adèle, c'est la personne la plus drôle que j'ai connue et vraiment, j'ai traîné avec des gens très drôles, genre depuis 10 ans. Elle a un truc un peu très 8e degré.
Et enfin, si Adèle était un mot?
Magnétique. Parce qu'elle l'est. Tous les gens qui la rencontrent, je pense, ils sont accros, addicts après. Du coup, t'as envie d'avoir une vapoteuse au nom d'Adèle. Dès que j'ai envie de fumer du Adèle, bah, je l'appelle.
Et donc, un grand merci à Melha Bedia.
Merci, Melha Bedia. C'est très juste tout ça, non?
Ouais, franchement, c'est impressionnant.
Vous seriez donc, Adèle, un résumé, une vapoteuse, Jim Carrey, drôle mais de mauvais poil le matin, qui se gaffe de cordon bleu coquillette en buvant des cafés frappés.
Ouais, bah ouais, c'est triste. Elle veut pas qu'on s'en sorte, hein, parce qu'on essaye quand même une petite hypocrisie en promo, mais en vrai, c'est ça.
Charline, vous avez demandé à Mela si Adèle était une musique, ouais. Qu'est-ce que ça donnerait?
Elle écoute des chansons de merde.
C'est vrai, en plus.
J'ai tout vérifié.
Bon, eh ben on va vérifier ça avec votre pop list. Nous vous avons demandé, Adèle, de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur Monstre, livre écrit par Gérard Depardieu en 2017 au Cherche Midi, c'est l'éditeur. Charline, c'est, je crois, le livre d'un acteur parlant d'un acteur. Cela signifie-t-il qu'un monstre se tapit dans tout acteur?
Oh oui, j'ai envie de dire oui. Hein. Ah bon, un livre de souvenirs signé Depardieu, un livre qui fait suite à Innocent, publié 2 ans auparavant. Et si ce volume s'appelle Monstre, c'est que de l'aveu de son auteur, il faut savoir être, je cite, abondant, excessif, quitte parfois à se tromper.
Bien. Adèle, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît?
Quand on joue un personnage, il y a toujours un moment où il faut revenir à la réalité. Sinon, c'est elle qui nous rattrape. Et c'est souvent de façon violente. Plus on masque sa propre saloperie, plus elle risque de nous revenir en pleine gueule.
C'est vrai?
Je pense que faut assumer ses fantômes et ses démons. Enfin, moi, ce que j'aime chez Depardieu, en tout cas, c'est sa liberté. Et de se tromper, et de continuer. Enfin, surtout d'assumer, en fait.
Et c'est d'ailleurs un livre dont vous aimez parler à vos amis.
Franchement, je sais qu'elle adore, elle me l'a offert, je l'ai jamais lu, c'est le livre de Depardieu.
Monstre, non ?
Ben voilà, Monstre en plus, oui, c'est ça.
Non mais en plus la vérité c'est que le dernier livre que j'ai lu c'est Tchoupi à la plage, je vais pas vous mentir, hier j'ai appelé mes 5 amis qui essayent de s'intégrer comme moi, je leur ai dit dites-moi des noms, et non, je l'ai adoré ce livre-là mais je lis moins depuis que j'ai mon fils, je vais pas vous mentir.
Bon alors Monstre, revenons un instant quand même sur ce livre de Depardieu que vous avez lu.
Oui.
Alors pourquoi vous l'aimez tant? Pourquoi est-ce qu'il vous touche?
Parce que je trouve qu'il incarne, enfin c'est celui que je trouve le plus accompli de Depardieu, parce que je trouve qu'il incarne... la liberté d'un Depardieu dans toute son ombre, ce qu'il raconte sur le rapport au corps, au langage, à l'humain. Je pense qu'on a tous en nous quelque chose de mauvais et de noir, et comment s'en servir pour atteindre justement sa lumière.
Depardieu, c'est quelqu'un que vous suivez dans sa folie?
Ah ouais, complètement. Je sais pas si j'aurai ses couilles un jour, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut tout faire à mes yeux.
Ouais. On est d'accord. Passons à votre film culte, Adèle Exarchopoulos. Ce film, c'est une séparation, réalisé par Asghar Farhadi, sorti en 2011. Charline, une séparation est souvent déchirante. Celle-ci échappe-t-elle à la règle?
Non. Après le départ de sa femme, Nader engage une aide-soignante pour s'occuper de son père malade. Ce qu'il ignore, c'est que la jeune femme est enceinte et qu'elle a accepté ce travail sans l'accord de son mari, un homme psychologiquement instable.
Fodates.
برای نگهداری پدرم مهم و زحمتون بشه که
چی کار داره میکنه؟
چیه؟ بابا داشت میمرد من رسیدم.
Alors pourquoi entre tous les films du monde, celui-ci vient-il immédiatement à votre esprit ?
Parce qu'il fait partie des films où quand je suis sortie de la salle, c'est un peu comme quand on apprend une nouvelle un peu fracassante, je marchais sans savoir où aller pendant longtemps. Et c'est un de mes réalisateurs préférés, je trouve que personne maîtrise la pudeur comme lui. Et il est dans une manipulation constante, il nous met face à nos propres contradictions humaines en permanence. Mmh. On pense que c'est une séparation déjà entre deux humains, entre un couple, après avec son pays. Mais je trouve que c'est surtout une séparation entre nos racines intérieures et la modernité qu'on nous inflige en fait. Mmh.
C'est l'effet que vous fait généralement le cinéma, cet état de sidération
sans... Pas tout le temps, on va non, pas se pas mentir. Tout le temps, ouais. Ah oui, mais c'est ce que je recherche. Ouais, ouais.
C'est ce que vous recherchez. C'est ce que vous attendez d'un film, c'est qu'il vous laisse...
Non, parce que je peux aussi aimer justement un Jim Carrey, le burlesque. J'attends qu'on me raconte une histoire. Et souvent, les histoires qui me bouleversent le plus, elles sont assez banales, en fait, comme dans la vie. Mmh. Une rencontre, une séparation, ce qui nous détermine finalement et ce qui nous perd.
C'est un film oscarisé, césarisé, Golden Globisé en 2012. Il est donc également exarchopoulisé.
Exarchopoulisé, ouais, pas mal. Ouais.
Hein? Ok. Alors pour la série, vous avez choisi Friends, créé par Martha Kaufman et David Crane, diffusé entre 1994 et 2004. Charline, les amis de mes amis sont mes amis. Les amis de Friends sont-ils les vôtres?
Oui. 6 copains à New York. Rachel, l'ex-petite fille de bonne famille qui s'émancipe. Monica, cuistot psychorigide. Chandler, dont on ne sait jamais dire quel est son métier. Ross, paléontologue pénible. Phoebe, chanteuse masseuse parlant un peu française, qui aide bien Joey, acteur semi-doué qui ment sur son CV quand il dit qu'il maîtrise ce même français.
Seems pretty simple. Your first line is, my name is Claude. So, just repeat after me. Je m'appelle Claude.
Je te coupe plow.
let's try it again.
Okay.
Je m'appelle Claude.
Je te plie blue.
Huh. It's not quite what I'm saying.
Really? Sounds exactly the same to me.
It does? Really?
Yeah.
All right, let's just try it again. Okay. Really listen.
Got it.
Okay. Je m'appelle Claude.
Je te floupe flee.
Plus Friends que South Park, donc, si j'ai bien compris.
Adèle. Les deux, mais Friends, pour moi, c'est un classique. J'ai envie de vivre avec eux, d'aller dans leur café, de dormir avec Phoebe. Enfin, je les aime, quoi.
Et aucune de ces petites séries anxiogènes là qui font courir tout le monde en ce moment, les...
Alors Games of Thrones, j'ai lâché, j'ai plus quel dragon couche avec quel elfe, j'ai regardé les deux saisons, après ça m'a coupé, j'ai adoré en fait, Gomorrah.
Le dragon a gobé l'elfe. En
fait. Voilà,
oui. Ah, oui. Ça c'était dans la saison.
On a dit pas de spoiler.
Ah oui, c'est la saison 3 ça. Non, pardon.
Les dernières en date, c'était Gomorrah, Black Mirrors.
Ah voilà, ouais. Voilà de l'anxiogène.
Ouais.
Oui.
Ouais, ouais, stressant. Oui. Vous vous rappelez de l'épisode avec le président et le cochon?
Oui.
Le premier ministre britannique, ouais. C'est le tout premier de Black Mirror.
Ouais. Ça me fait penser au jeu du tu préfères.
Ouais, sorry,
j'adore.
Il me manque pour cette pop list une musique, Adèle Exarchopoulos. Et cette chanson, la chanson que vous avez choisie, c'est celle-ci.
Ils ne me veulent pas du bien, ils ne me veulent pas du bien. Je suis sorti de la dèche, viens rosé comme je t'ai codé de chou. Fiancé à la vulgarité, j'ai renoncé à la précarité. J'ai mis mes chances dans le barrier, j'ai tiré sans jamais m'arrêter. Rose marque si veut qualité, grosse liasse la mentalité. Plus de sable dans le sablier, plus de place dans le paradis. Dame solitaire.
Mosaïque solitaire de Damso, c'est sorti en 2017 sur l'album Ipséité. Vous l'écoutez où, quand, comment, dans quelles conditions? Je sais, ça fait beaucoup de questions à la fois. Mais...
Sur mon scooter, souvent.
C'est dangereux.
C'est, ouais, je sais, j'hésite à le dire, mais depuis les AirPods, on crame plus si on écoute de la musique ou pas, je crois. Ouais. Dès que j'écoute de la musique, en fait, il vient dans mes premiers artistes. Après, j'ai une culture hyper large. Musical.
Oui, parce que vous aimez aussi des chansons de merde, si j'en crois votre ami Mela.
Ouais.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Enfin, ça dépend. C'est quoi pour vous une chanson de merde?
Oula. Alors là, Charline.
Bah moi, je peux citer celle que Mela m'a citée en l'occurrence.
Laquelle?
Bah Yana Kamoura.
Ah Yana Kamoura.
Non, mais voilà, ça veut rien dire.
Je pense que c'est trop vaste. j'ai plus vite fait de vous citer des chansons de qualité.
Comme quoi?
Springsteen.
Non. Ah, voilà, c'est elle qui le dit, c'est pas moi. Hein. Springsteen, évidemment. Mais, hein. Des Dylan, des McCartney Lennon. Non, il y a plein de choses.
Damso, j'aime ce qu'il est, comment il écrit, en fait. Je trouve ça assez poétique, même si ça peut paraître un peu pornographe parfois. J'avoue que moi, ça me plaît.
Ça va bien avec Choupi.
Voilà.
Bien, alors... Adèle, je résume, Gérard Depardieu, une séparation, Friends, Damso, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture, et ça nous donne ça.
Sophie, after me. Je m'appelle Claude.
Ils ne me veulent pas du bien.
The Coupe Plow.
Ils ne me veulent pas du bien.
Adèle, les gars, t'as dit que d'un arbre, moi, j'ai un peu de
je suis sorti de la neige, bien rosé comme je t'ai codé de chou.
Je t'appelle Blue.
Quand on joue un personnage, il y a toujours un moment où il faut revenir à la réalité, sinon c'est elle qui nous rattrape.
Je m'appelle Claude.
Je te floue.
Alors je me demandais si Depardieu allait réussir à passer dans mon mixeur de pop culture qui est assez étroit, hein, et puis ça marche très bien. Voilà, Adèle Exarchopoulos, compactée comme un César.
Ouais, je trouve ça assez juste, j'avoue.
Vous vous retrouvez là-dedans?
Ouais, complètement.
Très. Adèle, on va parler de Sibyl, le film de Justine Triet dans la suite de Pop, juste après ce nouveau morceau de H. Burns, Crazy Ones.
Always love the crazy ones.
Ces enfants-là. Crazy Ones dans Pop 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 sur France Inter, c'est un morceau signé H. Burns. Adèle Exarchopoulos, vous êtes venue nous parler de Sibyl, le nouveau film de Justine Triet, dont vous partagez l'affiche notamment avec Virginie Fira et Gaspard Ulliel. Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients pour se remettre à l'écriture. Et alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. Et c'est cette jeune actrice qui va inspirer son prochain roman. Bande annonce.
Bonjour, je m'appelle Sibyl. J'ai quitté la plupart de mes patients, là. Je me sens dans une très très bonne énergie. J'ai surtout envie d'écrire, en fait je suis obsédée par ça.
Je crois que j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre. C'est impossible. Je suis enceinte de 2 mois. Je peux pas le garder. J'ai tellement peur. Je peux pas lui dire. C'est un comédien. Il est connu. Je veux pas vous dire son nom.
Tu liquides tous tes passions pour écrire, mais tu prends cette fille.
On a tout ça fait pour certains d'entre eux, non?
Arrête d'écrire sur elle.
J'écris pas sur elle. Cette fille m'obsède.
Alors cette jeune actrice en perdition, c'est vous, Adèle, perdue entre fiction et réalité. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous arriver à vous dans la vraie vie, comme actrice?
Non, je pense pas. Je pense que je suis soit trop bien entourée, soit... Enfin, naturellement, ça ne me viendrait pas à l'esprit, en fait.
Vous ne perdez jamais vos repères? Vous arrivez vraiment à cloisonner parfaitement votre vie, votre métier?
Des fois, ça peut me surprendre, j'aurais pas forcément un exemple, mais d'avoir quelque chose de mon personnage, comme une cendre qui me reste, où je me dis, ah tiens, j'aurais jamais pensé qu'on avait ce point commun, où ça peut m'amener à certaines réflexions, les films et les choix que je fais. Mais sinon, non, comme tout le monde, je rentre chez moi, j'ai ma famille, quoi.
Prenez-en de la graine, Charline Roux.
C'est vrai que moi, je suis très perturbée par cette émission. Justine Triet dit s'être inspirée, en tout cas pour la narration de la série en analyse, ainsi que d'une autre femme de Woody Allen. Est-ce que vous les aviez vues? Est-ce que vous les avez rattrapées pour le film?
J'ai rattrapé en analyse, oui. J'ai essayé d'en commencer une, d'ailleurs, c'était drôle. J'ai tenu 2 fois, et 2 séances.
Vous êtes mal tombée?
J'arrive pas quand l'échange il est unique. À la fin, je lui posais des questions, il avait une migraine et même lui il voulait qu'on arrête. Je lui disais, mais vous arrivez vraiment à pas juger les gens? Et finalement, non, mais elle a plein d'inspiration, hein. Même pour des, c'est quelqu'un d'extrêmement précis. Elle a une direction d'acteur hyper, hyper riche. Même pour les scènes où Virginie ou moi on devait être ivre, elle nous montrait des images de Jenna Rowlands. Mais j'ai pas vu le Woody Allen dont vous parlez.
Alors justement, cette tentative d'analyse, c'était en guise de préparation? Vous avez côtoyé des psys ou des patients qui ont perdu pied pour savoir quel genre de rapport ils entretenaient?
En fait, je me suis toujours demandé comment, à quelle origine de ta vie tu commences à te réciter, en fait. Comment ça se passe?
C'est-à-dire se réciter, se raconter?
Oui.
Oui.
Enfin, qui...
Bah, quand le besoin s'en fait sentir, quand, comme votre personnage avoue, quand c'est tellement critique qu'il faut trouver quelqu'un pour vous aider à porter la charge?
Ouais. Et surtout, comment le psy t'introduit cette conversation? Alors, c'est pas forcément utile pour mon personnage parce qu'il est dans une détresse telle qu'elle est très narcissique et elle est très insistante. Elle voit tellement ce choix entre garder la vie qu'elle a en elle, mais qui vient d'un rapport avec un acteur. Elle est enceinte d'un acteur avec lequel elle joue et elle rêve de faire ce film. Sauf que cet acteur-là est en couple avec la réalisatrice. Et donc elle est face à un choix où elle n'assume pas de le prendre seule finalement.
Je vous parlais de fiction et de réalité, mais ce jeu de miroir entre c'est du cinéma, en train de filmer du cinéma, est-ce que c'est troublant quand on doit le fabriquer?
Franchement, c'était assez marrant parce que ce qui était troublant, déjà, faut savoir, on était à Stromboli. Enfin, c'était assez marrant parce que toutes mes scènes
au lieu du cinéma.
Ouais. Toutes mes scènes étaient dans des conditions soit météorologiques perturbante, on était sur un volcan, avec l'altitude, tout le monde avait l'air un peu bourré. Après, on était sur un bateau, on tournait donc le faux tournage, enfin le tournage dans le tournage. Et parfois, ça coupait et on retrouvait... Il y a une scène où il y a la réalisatrice du faux film qui pète un câble. Et tout, il y avait des gens qui vomissaient, d'autres qui faisaient pipi dans des bouteilles. Donc ça resserre très vite les liens. Et là, t'avais Justine qui pète un câble, je sais plus pourquoi, qui disait « Ramenez-moi au port, j'en peux plus de ce scénario ».
C'est-à-dire qu'en fait, la vraie réalisatrice du film, Justine Triet, se retrouvait dans l'état de la réalisatrice
de ce qu'elle avait écrit.
Du film.
Complètement.
Exactement.
On lui disait « Mais c'est exactement ce qu'on vient de tourner, du coup c'est un peu perturbant ». Mais sinon, non, c'est assez marrant de jouer tous les égos qui se jouent sur un plateau. Et puis après, l'effet miroir, c'est aussi quelque chose qui, humainement, on l'a dans la vie, dans quelconque relation, je pense.
Une question que j'adore poser aux acteurs, est-ce que votre réalisatrice vous a dit ce qu'elle aimait chez vous, ce qui lui a donné l'idée de vous proposer ce rôle?
Non. Après, c'est un rôle que j'ai eu en casting, donc je trouve qu'il y a quelque chose d'assez rassurant là-dedans. Tu dis que t'es prise pour les bonnes raisons, qu'il n'y a pas de notion commerciale ou tu te fantasmes. Du coup, non, mais je sais que parfois, quand j'ai eu des rôles en proposition, moi, j'avais envie de demander, mais après, je me disais, attends, tu vas passer pour quelqu'un de très narcissique. Pourquoi est-ce que tu m'as pris? Pourquoi est-ce que je t'intéresse? Mais,
Non, parce que la question, c'est pourquoi est-ce que tu m'as pris, mais pour ce rôle, quelle est la connexion, entre le rôle,
ce qu'on me demande
à jouer et ce qu'on voit en moi?
Non. Justine, elle me l'a pas dit, mais c'est vrai que j'avais une scène de casting à passer qui était assez dure. C'était une séance de psy où vraiment je la harcèle et je suis dans une détresse, total. Enfin, c'est là où elle est au fond. Faut que mon urgence, faut qu'elle pense que je vais me suicider, en fait, si elle me prend pas. Alors qu'elle a envie de revenir à ses passions premières, c'est-à-dire l'écriture.
Elle dit de vous que ce qui l'a vraiment stupéfié pendant le tournage, c'est que vous jouez avec une intensité de dingue. C'est-à-dire que vous ne jouez pas la situation, vous êtes la situation.
Bah,
c'est possible?
Je sais pas. J'avoue que j'ai aucune distance sur moi.
Non, mais vous avez peut-être pour le commenter, pour en parler, une fois que c'est fini. Comme on disait tout à l'heure, que vous cloisonnez bien et que vous n'êtes pas la même dans la vie
Je trouve que un plateau, c'est un terrain de jeu aussi. Je vois ça comme quelque chose d'enfantin. Tu peux te permettre d'être tout ce que tu jugerais une fois que c'est coupé. Tu peux te permettre d'être justement tous les monstres qu'il y a écrit dans un livre comme Depardieu. Il y a quelque chose où c'est un exutoire, mais j'essaye d'avoir l'instinct de mes personnages. Sinon, si tu te mets à les juger, par exemple, elle qui se pose la question entre faire son tournage et avorter, je pourrais pas prendre cette responsabilité.
Vous arrivez à regarder les films dans lesquels vous tournez?
Ouais, mais une fois, parce que je dois le défendre en presse, quoi. Et que je me dis, c'est mieux de savoir de quoi ça parle, mais sinon, je vais les voir une fois.
Vous dites dans le film, c'est votre personnage, c'est pas vous. Je fais la différence. que le cinéma est un milieu dingue dans lequel vous craignez de devenir folle. Mais comment fait-on d'ailleurs pour s'en préserver de cette folie? Comment est-ce que vous retrouvez la réalité?
Bah, moi, je sais que je me souviendrai toujours, enfin, tout le monde me ramène souvent la vie d'Adèle, vous l'avez pas fait d'ailleurs, mais en plus, ça me dérange pas, mais c'est vrai que ce que j'ai adoré dans cette expérience, c'était aussi la grâce des premières fois, l'exercice de promo, des festivals, etc., où j'étais assez naïve, donc je vivais vachement au présent, j'adorais ce qui se passait, même si tout le monde essayait de me projeter ou de me cataloguer. Je trouve que ce qui est dur dans ce métier-là, c'est toute l'industrie qu'il y a derrière.
même en promotion, de pas se perdre entre ce que les gens attendent de toi et qui tu es vraiment finalement. Parce qu'on te demande souvent des grandes conclusions, qu'elles soient politiques, humanistes, alors que t'es en pleine construction. En tout cas, pour ma part, j'estime que je suis pas finie. Oui. J'ai 25 ans. Et je trouve que ça, c'est assez dur dans ce métier-là, comment de pas se perdre à l'intérieur de ça. Je pense que chacun a ses secrets. Après, pour moi, ça rentre tellement pas en considération dans ma tête de changer ou de me trahir. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a les miens aussi. Enfin, ma famille, je suis maman. Oui. Du coup, très vite, la réalité.
Bon, et puis c'est évident qu'il y a des métiers bien plus à risque que le métier de comédien. On ne va pas épiloguer là-dessus. Pour autant, même si on rit à chaque fois qu'on entend des acteurs, des actrices parler de mise en danger, de prise de risque et tout, il n'empêche qu'on se crame un peu en jouant. Moi, ma question, c'était comment est-ce que vous retrouvez le contact avec le réel ? Vous avez, par exemple, une maman qui travaillait à l'hôpital.
Oui. Quand je dis les miens, c'est ça. Et j'ai même pas besoin de lui dire alors comment s'est passée ta journée. C'est juste, c'est tellement pas un sujet chez moi, dans ma famille, dans ma maison, avec mes petits frères, le cinéma. Ils sont hyper contents, mais c'est juste, je me sens déjà tellement privilégiée de faire quelque chose que j'aime, un métier que j'aime, en plus de ça, que ça me permette de nourrir moi et mon fils. Que c'est pas vraiment un sujet. Je pense que je suis consciente que quand je vais sur un plateau, je fais pas des opérations à cœur ouvert, je sauve pas des vies. Après, c'est une manière de s'investir dans les choix qu'on fait, les responsabilités qu'on prend, de par le choix des histoires qu'on a envie de raconter. Mais pour moi, c'est un terrain de jeu, en fait. Et j'essaye de jamais perdre ça. Et je pense que là où les gens, ils laissent un peu leur âme et leur humanité, c'est quand ça devient un peu trop premier degré aussi.
Et justement, Sybille, c'est aussi un film sur l'identité. Les deux héroïnes sont en lutte contre leurs origines. Elles tentent désespérément de s'en extraire. Margot, votre personnage, vient d'un milieu modeste qu'elle déteste. C'est tout ce qu'on sait d'elle dans le film. Est-ce que vous lui inventez, vous, un passé plus étoffé pour pouvoir la jouer, en fait ?
Oui, je pense que chaque rôle, j'avoue que j'ai pas du tout une méthode figée. J'ai pas du tout de méthode, si je dois vraiment être honnête, quand je rencontre un personnage. Mais là, c'est vrai qu'il fallait quand même lui fantasmer un passif. Donc j'en ai parlé avec Justine, parce que forcément, quand on dit origine, à un moment donné, elle dit « je suis sale ». J'essaye d'oublier mes origines, mais j'y arriverai pas. Je lui disais, mais de quoi on parle ? Parce qu'on dirait que c'est hyper, hyper intense. Et en fait, finalement, on se rend compte que souvent, on se construit à travers des banalités et qu'on n'est pas du tout tous égaux face à la souffrance. Donc avec Justine, on s'est raconté que non, elle venait d'un milieu modeste, d'une banlieue modeste, où son père, ça devait être un ouvrier immigré, sa mère, une femme, je sais plus ce qu'on s'était raconté d'ailleurs, mais que pour eux c'était une lubie le cinéma, où ils assimilaient ça de la télé-réalité, enfin qu'il y avait une grande incompréhension. Ouais, il y a aucune chute.
C'est pas grave. Il n'en faut pas une. Les chutes, ça fait mal. Ouais, je reviens au cinéma parce que ça m'intéresse. Et puis voilà, on est en plein Festival de Cannes. Le cinéma exerce une fascination autant sur ceux qui le font que sur ceux qui le regardent. Mais au fond, c'est un métier, certes, de dingue, mais de doudingue. De dingue qui se contente de raconter des histoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'effet que ça. Mais pendant le temps de la fabrication du film, est-ce que vous avez l'impression que c'est un monde qui vous protège?
Non.
On parle souvent de la bulle de fiction.
Non, ce qui est une bulle, c'est que c'est vrai que c'est assez marrant. Il y a quelque chose d'intemporel où du jour au lendemain, t'es avec 30 personnes, toute l'équipe technique à partager des moments. Tu sais que tu vas pas forcément te revoir, même s'il y a des affinités, des intensités. C'est assez marrant. Par exemple, c'est dur de raconter un tournage à ses amis. Mais je pense qu'il y a plein d'autres métiers qui impliquent cette chose-là. Mais c'est plus cette bulle intemporelle qui est assez particulière. Et c'est bête, mais j'en reviens au mien, à ma famille, à mes amis. Mais c'est ça qui te ramène au présent. C'est que c'est les constructions fondamentales que t'as autour de toi. Mais
Il n'y a pas de chute.
Toujours pas, c'est fou, Adèle sans chute.
Moi, j'aime bien que ça reste en l'air comme ça, ça me dérange pas du tout.
Je pense parler au nom de beaucoup de gens. On a tous eu le même choc la première fois qu'on vous a vu sur grand écran. C'était une évidence. Et pourtant, on a appris dans une toute récente interview à Vanity Fair que vous avez de la ressource, que vous avez exercé d'autres activités. Si vous n'aviez pas été comédienne, qu'est-ce que vous auriez fait ?
Alors, pour être honnête, j'ai la chance de pas avoir trop longtemps eu à me poser la question, parce que j'ai rencontré Adèle, j'allais redoubler ma terminale. Et je m'étais dit vraiment un truc de quelqu'un qui fout rien. Je m'étais dit, je vais faire 6 mois de service dans un resto et je vais voyager 6 mois. je travaillais à Bercy à l'époque, je vendais des sandwichs dans la salle de spectacle, enfin il n'y a pas que des sandwichs d'ailleurs. Pendant les concerts, j'aimais assez bien d'ailleurs, parce qu'à chaque pause on pouvait rentrer voir un concert, et puis le public différent entre un Marilyn Manson et une Michelle Obama, c'est assez drôle.
Michelle Obama, c'est assez récent ça, non ?
C'est récent, mmh. Complètement, j'y étais pas.
D'accord.
Vous savez, vous voulez me cramer. Mais j'y ai bossé pendant ma grossesse il n'y a pas longtemps. C'était marrant. Mais je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, et sinon je voulais être psy dans les prisons. Pareil, je ne sais pas vous dire pourquoi. J'étais fascinée, j'avais vu American History X, La Dernière Marche avec Sean Penn. Je me disais, je veux en être.
Vous avez fini par rencontrer Sean Penn, c'est déjà pas mal.
Ouais.
Et tourner avec lui.
Ouais, j'ai jamais cru. Être
en rapport
histoire.
Avec une psy.
J'y crois toujours pas. Ouais.
Ah oui, pour une fois, on a une chute là.
Ouais.
Bon.
Pas mal.
Je parlais de Cannes en ouverture d'émission, où Sibyl sera présentée dans une semaine exactement. Cannes, c'est un endroit synonyme de triomphe, hein, avec le film de Kechiche, mais aussi de déception avec celui de Sean Penn. Est-ce que c'est un moment que vous attendez impatiemment ou que vous redoutez? Ou ni l'un ni l'autre?
Ni l'un ni l'autre, je suis toujours assez curieuse et excitée. Moi, ce que j'adore à Cannes, avant j'avoue que je partais à Cannes à chaque fois avec des potes d'ailleurs. On était 6 dans une chambre et on évitait un peu les soirées, on mangeait des sandwichs entre nous, on rigolait. C'est pour le film en fait que je suis trop contente qu'il soit honoré là-bas. Après on sait jamais comment ça va être reçu et puis il existera toujours à travers les spectateurs. Et à mon sens, plus à travers les spectateurs que les critiques. Parce que oui, on le sait, Cannes, il y a quelque chose d'ingrat. Soit t'es encensé, soit t'es détruit. Et il y a cet effet de masse en plus, et de projecteur, vu que tout le monde en parle d'un coup. Mais moi, j'avoue que je suis un peu pour les plaisirs simples, de me dire qu'il va y avoir une régie un peu gratuite, que je vais être avec des gens que j'aime bien et qu'on va rigoler, quoi.
Melha Bedia, votre amie, en début d'émission, parlait de vous comme à la fois d'un clown et d'une bombe des tapis rouges. Dans quel registre est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise ?
J'avoue que je sais pas, je suis assez pudique. Bah, le tapis rouge, je prends ça comme un jeu, hein. Je vais pas vous mentir. Si j'irais là comme vous me voyez aujourd'hui, je serais très mal à l'aise parce que c'est vraiment qui je suis. Mais d'un coup, quand tu portes une robe que tu ne t'achèteras jamais et que cette personne sont venues un peu t'aider à te préparer, il y a quelque chose où c'est drôle. C'est un peu comme quand tu jouais à la Barbie quand t'étais petite, il y a rien de sérieux, quoi. Et burlesque, ouais, j'avoue que j'aime bien rigoler, que je suis entourée de... Mais j'ai des amis très drôles, je crois que c'est ce qui rassemble mes amis, notamment Melha, bien sûr. Je trouve qu'il y a quelque chose de noble là-dedans et qu'on peut un peu tout sauver avec l'humour.
Vous dites, Adèle, que depuis la vie d'Adèle, qui a été un tournage un peu intense, on va dire, hein, vous avez peur d'avoir l'air fade. Et vous dites également que c'est comme si on vous avait mis sur un trône et qu'il fallait prouver en permanence que vous en étiez digne. Est-ce que c'est par peur de cette fadeur que vous jouez avec autant d'intensité ?
Je sais pas pourquoi je joue comme ça, j'avoue. Je sais même pas trop comment je joue, mais j'ai fait le deuil en fait de la vie d'Adèle. Et il y a pas longtemps, je me suis rendu compte, c'était pour la promo de Sibyl. Il y a une journaliste qui m'a dit hyper franchement et en même temps, vu que c'est sincère, ça m'a pas dérangé, mais elle m'a dit oui, voilà, on n'a jamais retrouvé la puissance que vous aviez dans la vie d'Adèle, à part un peu là dans Sibyl. Et je me suis dit tiens, c'est marrant, ce serait censé me faire mal, mais en fait, j'ai accepté que moi j'avais fait le deuil de la vie d'Adèle, mais que les gens non. Et que je serais enracinée là-dedans, mais c'est plus... j'ai accepté. Si ça doit être ça, le fardeau, je le prends avec plaisir. Mais c'est vrai que quand t'arrives avec un succès comme ça, assez mondial, qui en plus a une charge politique, etc., on t'y ramène souvent, et que du jour au lendemain, moi qui arrivais en trottinette à mes castings, ou ma grand-mère m'accompagnait dans le métro, avoir des propositions, et que les gens... C'est un peu ce dont on parlait la dernière fois, que les gens te regardent différemment, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il en sait que je vais pouvoir jouer ce qu'il est en train de me donner. Mmh. Et ça m'a rassurée, en fait, en grandissant, de me dire, il y a des choses... Enfin, j'ai des choses à apprendre, en fait.
À quand, la comédie ?
Mais c'est mon rêve ! Tout le monde croit que je suis pas drôle, ça me rend ouf ! Tout le monde me pose la question en se disant, mais elle est pas drôle, elle fait des films d'auteur. Mais je rêve de faire une comédie.
Et ben voilà, l'appel est lancé.
Mais ça y est, je l'ai eu en casting, je suis trop contente. Je sais pas si j'ai le droit de le dire,
allez-y.
Comme ça il aura plus le choix. Je fais le prochain Quentin Dupieux.
Bravo.
Et c'est le casting le plus dur que j'ai passé.
Et ben voilà ce que j'appelle une belle chute.
Voilà.
Merci Adèle Exarchopoulos. Le film c'est Sibyl, le nouveau Justine Triet, qui sera présenté à Cannes vendredi prochain. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette
avec
émission.
Plaisir.
Ne bougez pas. Est-ce que vous savez faire ça ?
Non, je vous ai vu le faire, c'est mon rêve. Allez-y. J'essaye.
Ah non, vous savez vraiment pas. Bon, c'est pas grave, c'est pour lancer les pop news.
La grande méchante de La Belle au bois dormant est de retour et toujours sous les traits d'Angelina Jolie après Maléfique sorti en 2014. Voici Maléfique, le pouvoir du mal. Toujours un film Disney. Elle Fanning y est toujours la princesse Aurore et Michelle Pfeiffer rejoint la franchise. Et comme tout ce petit monde parle un français parfait... Ah non, à moins qu'elle soit doublée. Ouais, c'est ça, bande-annonce en français.
Nombreux sont ceux qui s'en prennent aux innocents. Vous êtes bien placés pour le savoir.
Si je ne vous connaissais pas, je verrais là une forme de menace.
En êtes-vous sûr ?
Sûr de quoi ?
De me connaître.
Qu'avez-vous fait ?
Maléfique, le pouvoir du mal, sortie prévue le 16 octobre.
Un tout nouveau PJ Harvey, ça ne se refuse pas, un titre composé pour la BO de The Virtues, la série de Shane Meadows, le réalisateur de This Is England, et ce titre c'est The Crowded Cell.
They tie me up with ropes. They beat my legs with sticks. I cannot use my legs. They drag me to a desk.
Un titre à retrouver donc dans la série The Virtues, grand prix du jury lors du dernier festival Sériemania, actuellement diffusé en Angleterre sur Channel 4 et toujours sans diffuseur français. S'agirait de se manifester.
Un très très beau casting pour la saison 5 de Black Mirror, série anthologique nous brocardant de manière plus ou moins terrifiante pour notre dépendance à tout ce qui est un écran. Anthony Mackie, le faucon des Avengers, Topher Grace de That 70 Show, Miley Cyrus de Miley Cyrus, ou encore Andrew Lincoln, le Moriarty de Sherlock, dans le rôle d'un type ulcéré et armé par les notifications de portables qui ne cessent de sonner autour de lui.
Lonely feeling.
Family life. It's boring.
Lonely feeling.
So here she is again.
What is it? Is it me?
Lonely feeling.
I don't have any friends.
Rachel, you look incredible.
You've got 20,000 fans out there. Knock them dead.
Les trois épisodes de Black Mirror, oui, que trois épisodes de la saison 5, signés Charlie Brooker et Annabelle Jones, seront mis en ligne sur Netflix le 5 juin.
France Inter. On peut pas. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Miley Cyrus.
Non. Angelina Jolie dans Maléfique.
Un petit peu quand même.
Ok. Bon,
merci Charline. Avant d'accueillir Jay Sunday, on l'écoute avec ce morceau Hickory Point in the Fall.
Golden as the barren sand, wind exhale fire.
Hickory Point in the Fall, c'est un morceau signé J.E. Sunday. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie d'Adèle Exarchopoulos et vient justement de nous rejoindre J.E. Sunday. On dit quoi ? J.E. Sunday.
Yeah.
Ah, ok, non, je vous demande ça parce que sur votre album, votre nom se lit Je Sound. Et Je Sound, bah, c'est perturbant pour une oreille française.
J'ai
appris récemment que mon nom est difficile à prononcer pour les Français. Alors c'est de la faute à mes parents, c'est tout.
Bon, J.E. Sunday, vous appelez en réalité Edward Sunday. Vous serez en live dans un instant sur la scène mythique de Pop 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 pour nous interpréter une version acoustique de Easy Kid, un des titres de votre nouvel album. Mais avant ça, faisons connaissance.
Vous venez d'un endroit qui a aussi abrité un autre musicien passé à la postérité, un dénommé Justin Vernon, Bon Iver, Eau Claire. C'est le royaume de la folk et des harmonies diverses et variées.
Oui, je
suis allé à l'université à Eau Claire. Je suivais un cours de musique. J'étudiais le chant, la voix, et c'était ça mon domaine. C'est pas très grand. Comme ville. Mais vu la taille, il y a beaucoup de musiciens effectivement qui en sont venus, dont Bon Iver. Tout à fait.
Vous êtes d'abord fait partie d'un groupe au nom très très mystérieux. Je veux juste que vous me disiez ce que ça signifie. C'est Daredevil Christopher Wright.
All my names are strange.
Tous mes noms sont tous étranges.
There were three of us in the band.
On était trois dans ce groupe.
But none of us were named Christopher Wright. But
we wrote. Personne n'avait le nom de Christopher, mais on écrivait sous ce nom-là. On a écrit une chanson. Donc c'était le titre. On avait besoin d'un nom pour notre groupe, donc on a pris ce nom. C'est un nom très long et qui est devenu assez pénible au bout d'un moment. On peut pas changer de nom une fois que c'est parti.
C'est comme si je faisais un groupe et que je m'appelais Cascou Adèle Exarchopoulos.
Ouais. Au moment, ça prend de la place.
Ah oui, c'est bien.
Alors, deux albums, puis bien obligé de gagner de quoi vivre. Hein. Vous voilà à Minneapolis, vous faites des petits boulots, notamment homme de ménage. En travaillant, vous écoutiez des podcasts sur des serial killers, et puis vous avez un physique qui correspond à des comédies romantiques américaines. Vous auriez pu jouer des comédies romantiques américaines si vous n'aviez pas découvert la musique.
C'est très généreux de votre part de dire ça.
I don't think I can act.
Je crois pas que je puisse jouer la comédie. Non, ce serait pas pour moi. Mais oui, effectivement, j'étais homme de ménage. Et quand je ne fais pas de tournée, je continue.
En écoutant des podcasts de serial killer.
Quand vous avez beaucoup de temps tout seul, vous pouvez écouter plein de choses sur les podcasts.
Oui, tout va très bien.
Serial, j'imagine.
Sure.
Évidemment. Le titre que vous allez nous interpréter, Easy Kid, est né d'une rencontre, si j'ai bien compris, pas très agréable après un concert en Pennsylvanie. Que s'y est-il passé ?
J'étais en tournée. Avec mon ancien groupe, donc. Et c'était la fin de la tournée, et on était épuisés. On avait joué dans une maison chez quelqu'un. Et après ce petit concert privé, il y avait une petite fête, mais moi j'étais fatigué. Je voulais juste aller dormir. J'étais assis sur le sofa, qui allait être mon lit. Et il y avait plein de gens qui faisaient beaucoup de bruit autour de moi. Et il y a ce type qui s'est assis à côté de moi qui a commencé à me parler. J'ai trouvé vraiment complètement ennuyeux et complètement décalé. Et sincèrement, j'étais fatigué aussi, donc peut-être que j'avais pas beaucoup de patience. Mais oui, effectivement, ça m'a inspiré, cette chanson.
Vous vous inspirez en fait de votre vie, vos textes sont très personnels, très intimes.
J'aime bien quand des moments de la vie comme ça, des choses banales, quotidiennes, des échanges, des conversations, entrent dans une chanson et arrivent à se développer dans un exercice plus vaste avec des idées. La chanson finit par quelque chose, raconter une expérience de la vie, quelque chose que nous ne pouvons pas changer et qu'il faut apprendre à l'accepter en même temps que vous grandissez.
Nous recevons Adèle Exarchopoulos, une des actrices françaises les plus puissantes du moment, et je lui posais la question de savoir comment on cloisonne entre le jeu, la vie réelle. Comment vous faites avec la musique ?
put a boundary between real life and art? How do you do yourself?
Ah, yeah. I don't know. I like the idea that it's very
free. Je sais pas. J'aime bien savoir que finalement ce sont des frontières qui sont assez libres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous jouez des rôles, donc vous rentrez dans des personnages. Moi, j'aime la liberté de un petit peu être entre la fiction et la réalité et mélanger les deux. Disons que je pense pas beaucoup à cette frontière et j'ai pas besoin beaucoup de l'exprimer.
Bon, Jay Sunday, je vous offre l'opportunité de passer de la réalité du studio à la fiction de la scène mythique de Pop. Installez-vous, regardez-moi, et dès que vous êtes prêt, vous me faites un petit signe, et moi je vous envoie le pop de démarrage. Là, c'est un moment d'intense concentration, voilà, il est devant le micro, il vérifie son câble, voilà, il s'approche du micro, et là, il me fait le petit signe, et moi je lui fais le...
Drugs that you did, I imagine they would go right to my head. All our jackets piled upon the bed, and I'd sleep all the way back home. Headlights are bright on my face, but the sun doesn't melt away. We work to impress. Dulcet tones, blurry-headed lyrics and romantic poems, when they spit and beat their brains until they're comatose. Angel-headed hipsters and the Holy Ghost, and I'd sleep all the way back home. Headlights are bright on my face, but the sun doesn't melt away, we work to impress.
Bravo, Easy Kid en live sur la scène de Pop, J.E. Sunday, dont le nouvel album vient juste de sortir. Ça vous a plu, Adèle?
Ouais.
Ah, oui. Merci, Adèle, infiniment.
Merci à vous.
D'être venue sur notre plateau. Sibylle, ça sort le 24 mai prochain, le jour de la présentation du film à Cannes. Bon courage à vous.
Merci.
Bravo, car c'est un film recommandé par Pop. Merci, J.E. Sunday. Votre album éponyme sort, lui, le 7 juin prochain. C'est dans quelques jours. Merci aussi à l'équipe de Pop. Demain, dans l'émission, Pedro Almodovar. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Plutôt comme disent ceux qui disent, comme disent les cagoles canoises à la fin de leur tuto sur YouTube. C'est moi.
Allez-y.
Abonnez-vous à notre podcast.
Non, pas du tout. C'est encore un peu Jean Lassalle, okay, c'est un peu étrange.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 36 cases, pop sur Instagram et Twitter.